à toutes et à tous. Bienvenue dans la chronique du hérisson sur CFM Radio, votre rendez-vous mensuel avec celles et ceux qui vivent et défendent la nature au quotidien. Une émission proposée par France Nature Environnement Tarn-et-Garonne pour donner la parole à celles et ceux qui cultivent autrement, pensent autrement et osent remettre du vivant au cœur de leur territoire. Aujourd'hui, nous allons parler des arbres et des haies, à l'occasion d'un grand événement qui aura lieu le samedi 13 juin à La Française, la fête de l'arbre et de la haie, organisée par l'association Campagne Vivante 82. Arbres et haies font partie intégrante de nos paysages et ils remplissent une multitude de services écologiques et écosystémiques. Leur abondance et leur diversité sont déterminants pour la préservation de nos écosystèmes. Alors, qu'est-ce qu'une haie? Quand et comment l'entretenir? Quel rôle précis remplissent les arbres et les haies dans l'écosystème et comment choisir une haie favorable à la biodiversité et résiliente face aux enjeux climatiques actuels? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Installez-vous confortablement, le hérisson est de sortie.
Madame Nature est belle, Madame Nature est sauvage, Madame Nature s'appelle la terre sur laquelle vivent des sauvages. Madame Nature est belle, Madame Nature est sauvage, Madame Nature s'appelle la terre sur laquelle vivent des sauvages. Madame Nature est belle, Madame Nature est...
Bonjour et bienvenue dans la chronique du hérisson. Pour ce mois de juin, nous allons traiter des arbres et des haies. Et qui de mieux que l'association Campagne Vivante 82 pour nous répondre là-dessus. C'est pour ça que j'ai invité Étienne Britis-Bête-Bédé, qui est chargé de projet gestion durable des haies et filière valorisation pour Campagne Vivante 82. Bonjour Étienne.
Bonjour Kevin.
Alors, merci d'être venu. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Campagne Vivante?
Oui, bien sûr. Bon, déjà, merci beaucoup de l'invitation pour parler des arbres et des champêtres aujourd'hui. L'association Campagne Vivante 82, elle existe depuis 34 ans. Elle a été créée en 1992 par des agriculteurs, avec pour objectif de promouvoir l'arbre et la haie champêtre dans le Tarn-et-Garonne. Donc pour ça, elle a différentes actions. Elle accompagne la plantation de haies champêtres, mais aussi la régénération naturelle assistée. C'est le fait de laisser pousser la végétation qui revient d'elle-même, tout en la gérant. Elle soutient une filière de végétaux locaux. Elle participe aussi à l'accompagnement de la gestion durable des haies, comment gérer l'existant, comment l'entretenir, le tailler, et comment valoriser du bois qui pourrait être du coup prélevé dans ces haies. C'est l'objet de mon poste que tu as cité.
Alors oui, justement, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont tes missions, toi, au sein de Campagne Vivante?
Alors du coup, ces missions autour de la filière, donc gestion durable des haies et filière de valorisation, ça va être du coup de conseiller sur comment on entretient, comment on taille. Il y a un label qui existe, le label haies, qui vise du coup à certifier la bonne gestion durable des haies. Donc l'association Campagne Vivante 82 est référente sur ce label dans le Tarn-et-Garonne. Ce n'est pas elle qui donne la certification, mais elle accompagne administrativement, elle conseille sur le cahier des charges et elle préconise des améliorations pour être cohérent avec ce cahier des charges. Donc du coup, elle se déplace pour rencontrer les agriculteurs, conseiller des collectivités, des agents techniques sur comment on entretient, comment on taille, comment on peut laisser pousser tout en maîtrisant les bords de voirie, par exemple. Voilà, c'est toute cette gestion de l'existant des haies qui est le cœur de mes missions.
Alors, vous avez l'air de faire énormément de choses à Campagne Vivante. Est-ce que, par curiosité, vous êtes combien dans l'équipe?
Alors, on est 9 salariés aujourd'hui, avec du coup une dernière action que je n'ai pas citée, qui est vraiment d'animer une dynamique territoriale autour de l'arbre et de l'haie champêtre dans le Tarn-et-Garonne. Et pour ça, en fait, ça va être des sous-actions de sensibiliser le grand public, comme les scolaires, avec des chantiers de plantation, mmh, avec des classes scolaires, des animations grand public, des balades champêtres commentées. Une action aussi dans cette dynamique territoriale auprès des collectivités pour conseiller, comme je l'ai dit tout à l'heure, engager des conventions avec différentes actions dedans. Mais aussi, du coup, un lien étroit avec les syndicats de rivières pour travailler aussi à l'échelle du bassin versant sur la question de l'eau, où l'arbre du coup a un vrai rôle à jouer dans le cycle de l'eau. Et enfin, toujours dans cette dynamique territoriale, au niveau régional, on est administrateur du réseau Haies Occitanie, qui est un réseau qui regroupe toutes les structures départementales de l'Occitanie. Donc c'est très intéressant pour la mutualisation des échanges techniques et vraiment avoir porté un message au-delà du département, un message du coup... une dynamique sur l'arbre et la champêtre en région.
Alors, si on commence à attaquer le sujet, alors bon, je pense que tout le monde sait ce qu'est un arbre, mais éventuellement, qu'est-ce que c'est une haie ? À quoi ça ressemble ? C'est quoi ses caractéristiques ?
Une haie, c'est un linéaire de végétation, donc une longueur. Un linéaire de végétation ligneux, donc en opposition à la végétation de type herbacée, graminée ou de l'herbe. Quoi.
Donc ligneux, ça veut dire qu'il y a du bois, c'est ça ?
Exactement, okay. Qu'il y a du bois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une haie. Et nous, ce qui nous intéresse et qu'on accompagne particulièrement, c'est des haies champêtres. Donc des haies champêtres, c'est des haies avec des arbustes. Donc des arbustes, c'est des végétaux qui vont faire une taille d'environ 3 mètres maximum. Des arbres. Et également, voilà, dans des haies champêtres, on va retrouver des semi-ligneux. Donc entre l'herbe et le bois. Mmh. Comme du coup les lianes, le lierre, les ronces. Tout ça, en fait, constitue une haie champêtre. Et dans ces haies champêtres-là, on va surtout retrouver, et c'est important, une diversité d'essences. On ne va pas avoir une seule essence. On parle là de haies monospécifiques. Dans ces haies champêtres, on va vraiment avoir une diversité d'essences et, très important, de végétaux locaux. C'est-à-dire des végétaux qui, en fait, sont propres à notre département, à nos milieux, et qui ne sont pas importés, sélectionnés variétalement. Donc, c'est des végétaux locaux, naturels, et qui sont du coup adaptés à la faune sauvage.
Alors du coup, quels sont le rôle des haies et des arbres dans un écosystème du coup ?
Alors, il y en a beaucoup. On dit que les arbres et les haies sont un peu le couteau suisse de nos paysages. Donc déjà, on peut parler de l'air, où en fait, par le biais de la photosynthèse, les arbres vont capter le CO2 et relarguer de l'oxygène. Après, on a tout un rôle vis-à-vis de l'eau, où en fait, les racines des arbres, les racines des haies, vont rendre le sol plus poreux, plus stable et permettre une meilleure infiltration de l'eau. Il y a également, du coup, par la chute de feuilles, la chute de branches, une matière organique qui va être apportée et qui va créer de l'humus une fois dégradé. Et cet humus, c'est une véritable éponge. Ça peut vraiment capter beaucoup d'eau. Et donc, tout ça, en fait, permet d'éviter le ruissellement de l'eau et l'érosion des sols, notamment quand les haies vont être implantées perpendiculaires au sens de la pente, de manière en fait à freiner l'eau de ruissellement et lui permettre de bien s'infiltrer. Ça participe du coup à limiter l'érosion, à limiter les inondations. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on connaît des épisodes d'orage et de pluie très 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 importants.
Important, ouais.
Qui sont très violents. C'est sûr que l'arbre ne peut pas tout faire, mais c'est indéniable qu'il a son rôle à jouer pour limiter ses conséquences en termes d'inondation et d'érosion. Et enfin aussi sur la qualité de l'eau, avec de l'eau qui ruisselle moins, qui s'infiltre plus, on a du coup aussi les racines des arbres qui jouent comme un filtre contre des polluants, contre des nitrates ou des phosphates, et donc du coup qui va jouer sur une meilleure qualité de l'eau. Au niveau du sol, on va avoir du coup un apport de matière organique, comme je le disais tout à l'heure, mm-hmm. avec les feuilles, les branches. Finalement, si on évite l'érosion des sols, le ruissellement, on permet aux éléments minéraux de surface, qui permettent de faire pousser les végétaux, de rester sur place et de ne pas partir avec l'eau. Donc en fait, on maintient la fertilité des sols déjà en place avec des arbres et des haies. Et aussi, du coup, on va remonter des éléments minéraux qui sont inaccessibles pour les plantes, vu que du coup, les arbres vont aller chercher des ressources beaucoup plus profondément.
Beaucoup plus profondément que les plantes de surface.
Ouais, voilà. Mm-hmm. Ça va remonter, ça va être redistribué, du coup, en surface. On peut aussi parler de tous les aspects, le rôle avec les champignons, les mycorhizes et mm-hmm. autres.
Oui, tout ce qui est symbiose plante-champignon. Oui. Mm-hmm. Pour nous, plus directement, est-ce qu'il y aurait éventuellement des avantages à avoir des arbres et des haies un peu partout ?
Oui, tout à fait. Déjà, on peut parler des ressources. Les arbres produisent des ressources que nous consommons, de fruits, mais également de bois pour se chauffer, donc du bois énergie, mais également par rapport à notre existence et la question du changement climatique. On va avoir du coup des étés plus supportables avec des arbres, pour les îlots de fraîcheur qu'ils peuvent créer. Ça, c'est plutôt en milieu urbain, mais donc ça a son importance. Mais aussi pour le cadre de vie, finalement, on aime tous aller se balader. Qu'est-ce que seraient nos balades dans la campagne sans arbres? Ça participe vraiment à ce cadre de vie.
On sait que les haies, les arbres accueillent beaucoup d'espèces animales. Quels seraient les types d'espèces d'animaux du coup qui sont susceptibles de profiter des haies et pourquoi en particulier?
Alors il y en a plusieurs. Pour parler de ce rôle-là des haies qui n'a pas été cité jusqu'à maintenant, c'est le rôle pour la biodiversité. Les haies, on parle des haies comme des corridors écologiques. Donc des corridors écologiques, c'est finalement les voies de communication, les routes, les chemins de la faune sauvage. C'est dans ces haies-là, dans ce corridor-là, que du coup la faune sauvage va pouvoir se déplacer. Mais pas que, elle va pouvoir trouver de la nourriture, un abri, un refuge et aussi du coup des lieux de reproduction. Donc les haies, elles sont importantes parce que elles offrent le gîte et le couvert, le déplacement, les moyens de transport et des lieux propices à la reproduction. Ces corridors-là, on parle en fait aussi de trame verte. Donc la trame verte, c'est ce maillage, ce découpage de haies qui permet cela. Avec ce rôle de biodiversité, on va retrouver beaucoup d'espèces animales, pardon, dans les haies, puisque finalement les haies, il faut les voir comme une maison, un immeuble à quatre étages avec en prime un ascenseur. Puisque finalement la haie, comment elle se compose? On va avoir la végétation herbacée, donc le pied de haie. Ensuite, on va avoir du coup les arbustes, comme on en a parlé, donc un étage.
Le pied de haie, c'est ce qu'il y a vraiment au niveau du sol.
C'est ça.
Puis donc on monte au premier étage et donc là on a des arbustes, c'est ça?
C'est ça. Ouais. Le pied de haie, ça va être l'herbe qu'on va avoir devant la haie. Donc c'est vraiment au pied, devant la haie. Les arbustes, donc, on va avoir après des arbres de moyen et de haut jet. Donc là, la hauteur des arbres va varier. Et on va retrouver les ronces, les lianes, le lierre, qui vont finalement assurer ce rôle que je disais d'ascenseur entre les différents étages. De ce fait, du coup, on va pas retrouver les mêmes espèces animales dans la haie selon où on se situe. On va déjà retrouver au niveau du sous-sol, parce que du coup, il y a une vie sous la haie qui va être propice du coup à certaines espèces animales, donc les vers de terre, des insectes, des arthropodes, la taupe, les belettes. Au rez-de-chaussée, on va retrouver le hérisson, les lapins, les lézards, quelques oiseaux comme le bruant.
Ils font un nid probablement donc plus proche du sol que d'autres espèces d'oiseaux qu'on retrouvera plus haut.
C'est ça. Et donc on arrive du coup dans ce premier étage où on va retrouver des merles, des mésanges, la fauvette, la pigrièche, qui notamment, elle, c'est intéressant et on a une action de sensibilisation sur cet oiseau puisqu'en fait, elle se sert de la haie et notamment des épines, comme dans du prunelier, de l'aubépine, de l'églantier. Elle se sert des épines des végétaux pour faire son garde-manger. Donc c'est un peu barbare, mais elle va embrocher tous les insectes qu'elle aura attrapés pour constituer son garde-manger. Donc voilà pour le premier étage. Et enfin, un peu plus haut, du coup, sur les arbres de taux de moyen et de haut jet, on va retrouver la chouette, des faucons cresserelles, des écureuils, des piques. Et aussi des jets, le jet des chênes. Alors lui, il a vraiment un rôle intéressant pour nous, puisque du coup, c'est pour ça qu'il porte ce nom. Il veut constituer des réserves en cachant des glands. Pour cacher des glands, il va très bien faire ça, puisque du coup, il va creuser un petit trou avec son bec, il va enterrer le gland, il va le cacher en mettant des feuilles dessus, donc ça fait un office de paillage pour éviter que l'herbe pousse. Enfin voilà, c'est bien caché. Et sauf qu'en fait, il va oublier à certains endroits de là où il a posé ses glands. Et donc, du coup, des chênes vont pousser. C'est intéressant pour la dissémination du coup des
essences. Parce qu'à la base, il ne le fait pas parce que c'est un jardinier dans l'âme. C'est parce qu'il a envie de faire des réserves de nourriture, donc il cache des glands. Sauf que certains, ils les retrouvent et puis d'autres, ils ne les retrouvent pas. Mais ils ont été super bien plantés.
Exactement.
Donc bien pratique ce jet des chênes. mine de rien, en plus d'être un très bel oiseau. Alors, on a donc vu pas mal d'espèces, mine de rien, qui vivent dans l'eau. Il y a pas mal de choses. Est-ce que parmi ces espèces, ou peut-être qu'on n'aurait pas encore cité, il y a des espèces qui sont menacées dans le département?
Oui, il y en a, malheureusement. Ou, par exemple, le hérisson d'Europe, qui en l'occurrence vit dans l'eau, comme cité, lui, il va donc aimer le pied des haies. On a également les chauves-souris, qui, elles, bénéficient, aiment les vieux arbres à cavité pour créer voilà, leur abri là-dedans, tout en circulant devant les haies pour se diriger. Et enfin, la tourterelle des bois, qui est menacée et qu'on retrouve dans les haies.
Et donc effectivement, le hérisson, pour ceux qui ne sauraient pas et qui auraient loupé notre émission consacrée au hérisson, c'est une espèce qui a l'air commune et qui l'était jusqu'à encore quelques mois ou peut-être un an ou deux, mais elle a été récemment classée dans les espèces considérées comme étant quasi menacées, là où avant il n'y avait pas de problème, puisqu'on s'est rendu compte que ces populations avaient tendance à fortement diminuer, particulièrement pour ce qui est du cas en France en tout cas, suite au fait qu'on a retrouvé énormément morts le long des routes, tout simplement. Ce qui vient justement avec ce que tu disais tout à l'heure, le fait que les haies soient des corridors écologiques, c'est-à-dire que s'il y avait des haies suffisamment qui permettaient aux hérissons de passer sans trop de problèmes d'un point à un point B, bah, peut-être qu'ils n'auraient pas autant besoin de traverser les routes, alors que le hérisson, lorsqu'il traverse les routes, bah, s'il sent un danger, une voiture, bah, il se roule en boule, ce qui est la pire des idées, de rester en plein milieu d'une route au moment où il y a une voiture qui nous arrive dessus. Et les chauves-souris, alors oui, on peut se dire que les chauves-souris, c'est pas des animaux super sympas, ça fait peur, etc. Mais c'est très 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 utile, les chauves-souris. Ça chasse les insectes, hein. On arrive bientôt à la période où les moustiques reviennent, donc on va être plutôt content des chauves-souris. Et en fait, elles se servent donc comme tu l'as dit, pour y trouver abri, mais elles s'en servent aussi énormément en termes de corridor, puisque grâce à leur écholocation, donc le fait qu'elles envoient un sonar, et que lorsque ce son touche un élément du décor, elles le recaptent et elles savent où il est, et ben elles s'en servent pour justement longer les haies et se déplacer comme ça d'un point A à un point B. Donc très très utile aussi les haies pour les chauves-souris. Du coup, si on revient sur les haies, quelles essences végétales croise-t-on en fait le plus souvent dans les haies de notre département?
Donc sur notre département, on va déjà retrouver plusieurs régions finalement, avec des sols très différents, avec des climats différents, qui vont nous amener à avoir une végétation tout à fait différente. Mais c'est vrai qu'on peut en citer quelques-uns. Pour les arbustes, voilà, le cornouiller sanguin porte ce nom puisque du coup il fait des rameaux rouges en hiver. L'aubépine monogyne, mais également des pruneliers, des églantiers pour la partie donc des épines. En termes d'arbres, on va retrouver l'érable champêtre, des frênes, le frêne commun ou le frêne oxyphile. Frêne commun, il préfère plutôt les milieux frais. De ripisylve. La ripisylve, c'est des haies de bord de cours d'eau. On va retrouver également des chênes. Chêne pubescent, plutôt sur la partie quercy, ou sinon chêne pédonculé, chêne sessile. Et après, voilà, on va avoir plutôt des arbres disséminés, mais qui sont très très intéressants, qui sont pas qu'on ne croise pas le plus souvent, mais on peut citer la lisier terminale et le cormier, qui sont voilà, des essences d'arbres avec des intérêts très forts en termes de bois, et qui ont un peu disparu, mais qu'on tend du coup à replanter dans les haies que l'on accompagne.
Alors, quel type de haies rencontre-t-on dans notre département, et surtout, est-ce qu'elles sont favorables ou défavorables à la biodiversité?
C'est vrai que les différentes essences que l'on trouve dans le département, on peut les retrouver dans des types de haies différentes. Principalement, on va retrouver des haies en milieu agricole. Ces haies en milieu agricole, elles sont favorables à la biodiversité, vu que du coup, c'est les haies existantes, finalement, qui sont plantées d'essences locales et naturelles, qui se sont pour la plupart du temps semées toutes seules.
Seule, ouais.
Donc du coup, celles-ci, elles sont favorables à la biodiversité. Il est quand même important de bien les gérer durablement pour permettre du coup cette biodiversité de s'exprimer. Donc c'est principalement des champêtres. Après, c'est vrai que du coup, on va pouvoir retrouver des haies monospécifiques plutôt chez les particuliers, pour délimiter les propriétés.
Monospécifique, ça veut dire une haie avec une seule espèce, hein, toujours la même.
Exactement. Donc là, on peut citer des haies de thuya, des haies de laurière, des haies de piracanta. Ça a un intérêt, c'est une haie, ça remplit un rôle de brise-vent, il peut y avoir un intérêt pour la biodiversité, mais On limite très fortement le potentiel des haies vis-à-vis des rôles dans l'écosystème qu'on a cité tout à l'heure. Du coup, voilà, elles sont présentes, elles sont là. Mais s'il y a des projets de replantation, c'est beaucoup plus intéressant de partir sur des haies avec une diversité d'essences, puisque du coup, ça permettra à plus grand nombre d'espaces animaux, pour le cas de la biodiversité, de profiter de la haie et d'être aussi plus résilient si jamais, du coup, il y avait une maladie sur une essence végétale ou si une essence végétale ne supportait pas, n'était très sec. Voilà, ça permet du coup d'avoir une haie plus résiliente.
Comment est-ce que Campagne Vivante peut venir en aide éventuellement aux particuliers, aux entreprises, aux agriculteurs, aux collectivités dans des projets de plantation, de restauration de haies?
Donc c'est le cœur de métier de l'association, c'est d'accompagner la plantation de haies sur le département. Depuis la création, c'est quelques 650 km de haies qui ont été accompagnés. Donc en effet, on accompagne tout porteur de projet, qu'il soit particulier, entreprise, agriculteur, collectivité. Comment on peut venir en aide? C'est déjà la première étape, c'est comme on est une association, c'est d'adhérer à l'association. Donc à titre indicatif, c'est l'adhésion est de 30 euros pour les particuliers et les agriculteurs pour avoir un projet de plantation, davantage pour les collectivités et les entreprises. À partir de là, en fait, les porteurs de projets reçoivent une visite conseil personnalisée de par notre équipe, où en fait il est question de comprendre le projet, définir les objectifs, conseiller sur les choix les plus optimaux d'implantation de la haie, de relever la végétation qui pousse naturellement autour, pour être précis sur les choix près de la liste d'essence, et analyser le sol pour que la haie, elle puisse s'épanouir. Ça, c'est la première visite conseil. Ensuite, du coup, il y a tout un travail pour fournir l'ensemble des fournitures nécessaires à la plantation. Donc là, on va parler de végétaux, bien sûr, avec notamment une partie qui va être autoproduite par l'association, avec nos pépinières associatives. On va fournir du paillage, puisque la haie, en fait, dans les premières années, elle va être en concurrence avec l'herbe. Et il faut impérativement que la haie soit hors de cette concurrence. Donc on va fournir un paillage biodégradable. Et enfin, des protections, puisqu'il y a de plus en plus de pression de cervidés notamment et de lapins, de rongeurs. Ou donc du coup, c'est quand même très appétant pour eux.
Et des jeunes pousses, comme ça, là.
Voilà, des bourgeons.
Sans canon.
Ouais, des jeunes pousses. Donc c'est bien pour eux qu'on le fait aussi, mais pour plus tard, en attendant, il faut les laisser pousser. Donc malheureusement, on est obligé, parfois, selon les secteurs, de fournir ces équipements pour pallier à ça. Donc tout ça permet du coup aux porteurs de projets d'avoir un accompagnement technique et financier. Du coup, il peut y avoir une diminution. Il y a une diminution du reste à charge qui est payée par nos partenaires, subventionnée par nos partenaires. Du coup, le Conseil régional Occitanie, l'Agence de l'eau, à Tour-Garonne, la Fédération de chasseurs ou le Conseil départemental du Tarn-et-Garonne. Donc, cet accompagnement technique et financier, après, s'ensuit du coup d'une visite de suivi pour s'assurer que la haie, elle s'installe bien, préconiser des conseils d'entretien, de gestion, pour que et replanter aussi également quelques plants qui n'auraient pas pris. L'association fournit jusqu'à 8% de plants gratuitement, si jamais ils n'ont pas pris. À titre indicatif, on relève des taux de 4% de perte pour une haie bien gérée.
Ah bah ouais, vous faites ça bien, en gros.
et les planteurs font ça bien aussi, puisque du coup, l'action de planter est faite par le planteur lui-même.
D'accord.
Peut être organisé des chantiers scolaires, des chantiers participatifs, mais le principal des plantations est réalisé par le porteur de projet lui-même, sauf éventuellement quand il y a des très très longs linéaires de haies, où du coup, on n'a pas la main-d'œuvre pour replanter des haies. Alors l'association propose une prestation de plantation mécanisée. Donc c'est une machine qui s'attelle à un tracteur et qui permet de faire des longs linéaires assez rapidement. Donc c'est une modalité autre.
Quelles essences vous avez l'habitude de conseiller dans les projets que vous accompagnez?
Tout va dépendre de l'objectif qui va être visé. C'est pour ça que la visite conseil personnalisée, elle est intéressante là-dessus. Et donc, selon l'objectif, on va adapter la liste d'essences. Selon, du coup, le lieu, la localisation, le terrain, on va adapter la liste d'essences. Mais on peut avoir du coup de faire un focus sur la biodiversité avec un objectif précis que Mahé devienne un refuge pour la biodiversité. On peut avoir un focus sur des plantes mellifères et nectarifères pour les abeilles. Donc là, on va pouvoir, par exemple, davantage conseiller des érables champêtres, des frênes, des viornes lantanes. Puis on veut avoir un objectif sur l'eau, et bien on va privilégier des essences avec des racines pivotantes, donc tel le chêne, le noyer, où en fait la racine pivotante va vraiment aller très profondément dans le sol et stabiliser davantage. Et en termes, toujours pour cet objectif autour de l'eau, on va également sur des arbustes retrouver des cornouillers sanguins, des troènes des bois, qui ont un système racinaire très dense et qui pourront du coup permettre cette stabilisation des sols.
On parlait tout à l'heure un petit peu du changement climatique. Bon, bah, c'est une réalité, hein. On le voit même là actuellement, hein. Il fait déjà chaud, alors qu'on n'est pas encore en été. Est-ce que, sachant que ça a un impact sur les espèces d'arbres, est-ce que les essences qu'on a actuellement sont des essences qui sont adaptées au changement climatique à venir, ou est-ce qu'au bout d'un moment, on va constater certaines espèces qui risquent de disparaître et remplacer par d'autres ?
C'est quand même difficile à dire. Tant du coup le changement climatique pose des interrogations et des incertitudes. Par contre, sur le choix des essences, on s'attelle vraiment à deux choses importantes pour nous. La première, c'est de choisir des végétaux locaux. Environ 60% de nos plants sont des végétaux locaux. Donc il y a un label qui existe, qui s'est devenu un label récemment. On parle du label végétal local, qui en fait atteste de l'origine de la graine. Comme je disais tout à l'heure, c'est une de nos actions de soutenir cette filière de végétaux locaux, puisqu'en fait, du coup, on va, avec des bénévoles, collecter des fruits en milieu naturel. De ces fruits, on va en extraire des graines, et ces graines, on les envoie à nos pépiniéristes partenaires qui, eux, produisent des plants de 1 an. C'est aussi important parce que c'est notre particularité de ne planter que des jeunes plants. Ils produisent des plants de 1 an et ils nous les retournent. Et du coup, on a vraiment un plant qui est adapté et qui vient en fait du territoire où il a été ramassé. Donc on fait ces collectes de manière, on mutualise au niveau régional, donc c'est bien pour aussi une diversité génétique. Donc ça, c'est très important pour nous de choisir des végétaux locaux, puisque finalement, ils sont déjà là. On fait confiance à la résilience des végétaux vis-à-vis du changement climatique. Et puis aussi parce qu'il y a quand même des choses qui se passent en termes de perturbations météorologiques qui sont, voilà, on va toujours quand même avoir des périodes très fraîches. On va avoir parfois beaucoup d'eau qui arrive. Et donc, bah, voilà, faire confiance avant tout à la végétation locale. Donc ça, c'est une première chose. Et après, par contre, ben oui, en effet, on constate qu'il peut y avoir des essences qui ont plus de mal. Et donc, du coup, dans notre palette végétale, donc dans l'ensemble des essences que l'on conseille, on intègre quelques essences que l'on retrouve plutôt du côté méditerranéen.
En prévision, on va dire.
Voilà, en prévision pour les intégrer. Et après aussi, ben parce que, comme je disais tout à l'heure, on a des zones dans le Tarn-et-Garonne qui sont, notamment sur Bruniquel, où ça peut paraître étonnant, mais on va retrouver du pistachier naturel sur Bruniquel. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir cette palette plutôt méditerranéenne pour à la fois correspondre du coup au sol ou parfois qui sont très très secs dans le Tarn-et-Garonne, mais aussi voilà un peu par légère anticipation, tout en focalisant l'effort sur des végétaux locaux.
Donc, quel conseil pour avoir des haies vivantes et accueillantes pour la biodiversité ?
Qu'elles soient accueillantes pour la biodiversité, ben, comment je disais, de la diversité dans les essences. Le maintien d'une bande enherbée au pied de la haie, pour tous les éléments qu'on a cités. Si on fait un peu de taille, de branches ou autre, bon, déjà, pour rappel, il est interdit de brûler les branches de taille. Mais voilà, si c'est de faire un tas dans la haie, ça va bénéficier à la biodiversité. Et de laisser une largeur, voilà, de minimum de 3 mètres pour que la haie soit fonctionnelle.
D'accord, donc la haie doit faire à peu près 3 mètres de large, c'est
oui,
ça
ouais. Entre, okay. deux, ouais, entre 2 et 3 mètres.
Ouais, c'est déjà conséquent. Ouais. Tu parlais de taille de haie tout à l'heure. Est-ce que, donc du coup, quand et comment tailler les haies pour respecter la biodiversité et en même temps faire en sorte de prendre soin de la haie ?
Si on regarde du côté, pour prendre soin de la biodiversité, si on regarde du côté nidification, il est conseillé, recommandé et obligatoire, selon les publics, de ne pas tailler les haies du 15 mars au 15 août. Donc voilà, ça donne déjà une première période.
Voilà, actuellement, on ne taille pas les haies, attend la fin de l'été. Désolé pour ceux qui souhaitaient le faire maintenant.
Exactement. Donc ça, c'est une première période. Après, quand et comment tailler les haies ? Là aussi, tout dépend de ce qu'on veut faire. de quel est l'objectif. Donc, si on parle de, sur des jeunes arbres pour faire de la taille de formation, c'est-à-dire qu'on veut que l'arbre il monte droit, qu'il soit bien droit, ça, on va faire ça du coup, mais on est sur des très jeunes plants en fait, sur des, de 0 à 10 ans. Donc ça, on va faire ça pendant l'été parce qu'il n'y a pas ce risque-là de nidification. Si on veut faire de la taille de recépage, donc la taille de recépage, ça va être de couper tout à ras au en ras du sol. Ça, c'est dans le but de densifier une haie, d'avoir en fait plein de une haie brise-vent bien opérationnelle, bien opaque. Et ça, du coup, on va faire ça en hiver. Et donc, comment on fait ces tailles-là? Ça, c'est des tailles manuelles simples à sécateur à main et brancheur. Et par contre, si on est dans de la taille de long linéaire de haie, donc plutôt en milieu agricole, voilà, dès que c'est plus long, là aussi, on va privilégier la période hivernale, voire automnale. Et donc là, on va plutôt utiliser des outils comme des lamiers qui sont plus adaptés que les pareuses pour tailler les branches. Là aussi, tout dépend du coup du diamètre de la branche, mais le lamier est plus intéressant, le lamier à couteau notamment. Un grand panel d'objectifs de taille, de type de haie qui du coup dépendent voilà, du conseil. En tout cas, on organise voilà, des formations là-dessus. On conseille dans le cadre de mes missions sur tout ça.
Quelles sont les prochaines actualités éventuellement où on pourrait vous retrouver, Campagne Vivante?
Alors, eh bien, il y a notre événement phare de l'année qui arrive, c'est la Fête de l'arbre et de la haie, le samedi 13 juin, à partir de 10h à la Française, où du coup vous retrouverez des balades champêtres, des ciné-débats, des ateliers notamment sur la cuisine des arbres, qu'est-ce qu'on peut cuisiner avec des essences qu'on retrouve dans les haies, des impressions végétales. Il y aura également aussi des spectacles, des concerts. Vous pouvez aussi retrouver tous nos partenaires.
Dont nous.
dont France Nature Environnement 82. Et des expositions donc sur le bois et sur les animaux du Quercy que l'on va retrouver.
Alors pour terminer, est-ce que tu aurais éventuellement un dernier conseil pour nos auditeurs?
On dit souvent que voilà, le meilleur moment de planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième moment, ben, c'est maintenant. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'association Campagne 2082 pour bénéficier de ce conseil et de cette expertise. Et si vous n'avez pas de terrain ou de place disponible pour implanter une haie, ben vous pouvez rejoindre notre équipe de bénévoles qui est vraiment indispensable pour nous pour réaliser les actions qu'on a citées. On peut vraiment compter sur une équipe de bénévoles bien déterminée. Et donc, ben voilà, pour toutes ces informations, aussi pour la Fête de l'Arbre, qui est un événement gratuit ouvert à tout public, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet de Campagne Vivante 82.
Si jamais vous souhaitez prendre contact avec Campagne Vivante, ben n'hésitez pas, hein, la Française, c'est bientôt le 13 juin. Ben, je te remercie beaucoup, Étienne, d'être venu. Et je vous propose une pause musicale. On va écouter Aurora avec son titre The Seed et on se retrouve juste après. Merci encore.
Slow motion.
Avec France Nature Environnement Tarn-et-Garonne, la nature a son agenda. Pour ce mois de juin, on commence le 5 juin à 20h30 à Montricou, dans la salle des mariages de la mairie. Il y aura une conférence débat sur le thème de la protection des abeilles proposée par Francis Marty de l'association Pollen. Le 6 juin, à Beaupuy, dans le cadre de la quinzaine de la bio et l'événement ferme en fait, venez visiter l'épi de Beaupuy. Au programme, visite du champ, de la meunerie et de la boulangerie. Puis soirée fermière avec repas et spectacle. Le week-end du 6-7 juin, à Villemade, dans la salle des fêtes, il y aura un festival anniversaire de l'association Graines qui fête ses 10 ans. Il y aura le samedi des stands d'associations, un marché d'artisans, des stages de danse, de concerts, et le dimanche, un vide-grenier et un concours de pétanque. Le dimanche 7 juin, dans le quartier Villebourbon de Montauban, l'association Ça monte à bas organise l'art au jardin. Tous les jardins privatifs du quartier s'ouvrent au public pour découvrir une grande exposition à ciel ouvert présentant plusieurs peintures, sculptures, de la musique, des danses, etc. Le 13 juin, de 10h à 18h à La Française, c'est la fête de l'arbre et de la haie, organisée par l'association Campagne Vivante 82. Venez profiter de balades, d'ateliers, de ciné-débats, de contes, ainsi que d'un marché de producteurs, le tout centré autour de l'arbre champêtre. Toujours le 13 juin, de 9h30 à 12h à Puy-la-Garde, le CPIE Quercy-Garonne et le Parc d'Écosse du Quercy proposent une formation sur l'inventaire participatif du lézard ocellé, une espèce rare et protégée. Toujours ce même week-end, l'association Terre à Terre vous propose un chantier castor à la Tomase. Si vous souhaitez agir concrètement pour la régénération des cours d'eau, n'hésitez pas à y aller. Le 16 juin, de 9h à 12h à La Barthe, l'association Tarn-et-Garonne Biodiversité propose une sortie nature sur les zones humides de La Barthe. Pensez à prendre vos bottes et à vous inscrire à l'adresse animation avec un S, @tarn-et-garonne-biodiversité.fr. Le 17 juin, à Montauban, aux 12 rue du Génie, France Nature Environnement Tarn-et-Garonne vous propose une table ronde autour des ORE, les obligations réelles environnementales. Si vous êtes propriétaire et que vous souhaitez protéger votre jardin ou votre bois par exemple, n'hésitez pas à venir vous renseigner. Nous accueillerons un notaire qui répondra à vos questions sur ce sujet. Et enfin, le 27 juin, de 9h à 18h, dans la salle des fêtes de La Française, il y aura une journée des alternatives locales consacrée à la transition agricole et des paysages, organisée par l'association Graines de Transition. Au programme, une table ronde sur le végétal de pays et le changement climatique, une conférence sur l'agroforesterie, des ateliers sur la gestion de l'eau et beaucoup d'exposants et d'acteurs locaux vous proposeront des stands. Je vous propose une seconde pause musicale. On écoute Lindsey Stirling et Chrissy Constanza avec leur titre « Eye of the Untold Her, Echo in the Dark ». Info, alerte et bonne nouvelle, voici les actus de FNE 82. Pour cette actu, nous allons revenir sur un événement qui a eu lieu à l'université de Montauban ainsi qu'au château du conseil départemental le vendredi 29 mai. Cette journée a rassemblé plus de 200 élèves à un forum sur le thème de la biodiversité, ainsi qu'une quarantaine d'élèves, dont beaucoup d'éco-délégués, à une COP jeune, la troisième organisée dans le département. Après la mobilité et les déchets, cette COP a traité le sujet de la biodiversité. On écoute Laurence Delprat, animatrice second degré du réseau Éducation Développement Durable du Tarn-et-Garonne et enseignante au collège Olympe de Gouges de Montauban, nous présenter la partie forum de cette journée.
Je m'appelle Laurence Delprat. Donc moi, je suis chargée de l'animation en éducation et développement durable sur le département pour le second degré. Et je travaille avec Fabrice Guittard, qui est mon alter ego pour le premier degré. Donc voilà, nos rôles en tant qu'animateurs départementaux, c'est de créer des événements départementaux qui rassemblent des élèves du premier degré et du second degré, donc du primaire, collégien et lycéen. Et donc tous les ans, nous organisons un forum éducation au développement durable départemental. L'objectif de cette journée, c'est de faire se rencontrer des éco-délégués donc de tous ces niveaux-là. Toute la journée, ils vont tourner sur des ateliers qui sont mis en place par nos partenaires. Donc nous avons 13 partenaires sur ce forum. Donc FNE, CPIE, Fédération de pêche, Campagne Vivante, Monte à vélo, voilà, bon, je ne vais pas tous les nommer, il y en a 13. Hein. Et chacun propose des petits ateliers à destination des élèves. Alors des ateliers où ils sont où les élèves sont acteurs, hein. Ils ne sont pas là pour. C'est pas du descendant, c'est vraiment voilà, des petits ateliers ludico-pédagogiques. Voilà, et donc les élèves, ce jour-là, ils vont participer à 5 ateliers comme ça, et en plus ils vont assister à une conférence qui est donnée par Frédéric Santoul, qui est chercheur au Centre de recherche sur la biodiversité à Paul Sabatier, et voilà, sur le thème de la biodiversité. Alors pourquoi le thème de la biodiversité? Puisque en parallèle de ce forum a lieu une COP jeunesse avec nos partenaires FNE et CPIE. Et cette COP jeunesse cette année est sur le thème de la biodiversité. Voilà, donc les élèves, il y a des élèves qui vont passer toute la journée à la COP et d'autres qui vont passer toute la journée au forum.
Pour vous donner une idée des ateliers qu'ont pu découvrir les élèves présents, je vous laisse écouter quelques intervenants présenter leurs propositions.
Ma collègue et moi sommes deux enseignantes de l'école primaire Jules Guesde et nous avons proposé aujourd'hui un atelier sur les oiseaux que l'on peut retrouver à Montauban, notamment que l'on a pu observer avec nos élèves sur le parc du Trail. Et nous avons proposé tout un tas de petits jeux, donc un lynx, un qui-est, un memory, un mistigri et un défi chrono sur ces oiseaux pour qu'ils puissent à la fois apprendre à les connaître et puis à les décrire et à les reconnaître par leur description.
Donc moi je suis Céline Pointereau, je suis enseignante au collège Azania à Montauban. On est venu avec 18 éco-délégués. Et ces éco-délégués avaient sur plusieurs séances, en collaboration avec un AED du collège qui est un peu spécialisé, il a une maison de production dans les jeux de société, donc il nous a fortement aidés. Et par groupe, ils ont mis en place, ils ont élaboré des jeux de société avec comme thème initial le développement durable. Donc il y a eu plusieurs jeux très 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 engagés, très bien ficelés, mais la difficulté du temps, toujours pareil, des moyens. Pour la journée d'aujourd'hui, on a réussi à faire aboutir 3 jeux déjà, donc des jeux qu'on a proposés sur cette journée-là. C'était l'atelier qu'ils ont animé.
Donc, je m'appelle Mathis Latin, je suis animateur à la Fédération de pêche du Tarn-et-Garonne. Et aujourd'hui, du coup, ce que je propose, c'est un atelier petit scientifique, donc avec à peu près toute tranche d'âge. Là, ce qu'on a surtout, c'est entre collège et lycée. Et le concept du coup de cet atelier, c'est de capturer donc directement sur le milieu aquatique, donc là sur le Tarn, des petits animaux aquatiques, ou pour le dire un peu moins vulgairement, des invertébrés aquatiques. Et en fait, ces invertébrés vont être classés dans un tableau en fonction de leur sensibilité face aux diverses pollutions. Et donc les enfants vont pouvoir retrouver un petit peu quelle famille de petits animaux ils ont réussi à trouver, et en fonction de ça, donner une note plus ou moins représentative au cours d'eau pour se rendre compte des potentielles dégradations qu'on pourrait trouver sur le Tarn.
Je m'appelle Thorsten Andronic, donc moi je travaille à l'association Campagne Vivante 82. Je suis en charge d'accompagner les collectivités et des actions de sensibilisation grand public et scolaire. Et aujourd'hui, au cours du forum, j'ai proposé aux élèves de comprendre un petit peu l'intérêt et les fonctions des arbres et des haies champêtres, notamment au travers d'un Time's Up. Donc l'idée, c'était d'expliquer par ses propres mots et de mimer aussi toutes les fonctions des arbres et des haies champêtres pour l'écosystème et pour la société humaine. Voilà.
On revient avec Laurence Delprat qui nous explique maintenant plus en détail le programme de la COP, ainsi qu'Angèle qui y a participé.
Alors pour détailler un petit peu la COP, en fait il faut savoir qu'en amont, les enseignants ont été sensibilisés donc à cette problématique de la biodiversité. On leur a présenté les protocoles Vigie Nature École. Voilà, et ensuite eux ils ont fait leur petit marché, hein. Chacun a décidé de travailler sur oiseaux des jardins, sauvages de ma rue, vers de terre. Bon, il y en a même qui ont mis en place, parce qu'il avait déjà en place des protocoles sur les hérissons. Voilà, et donc les élèves ont travaillé sur ces protocoles tout au long de l'année. Et pour la COP, ils ont préparé deux diapositives qui présentaient les résultats qu'ils avaient, leurs observations de l'année en cours. Donc au moment de la COP, ils ont présenté leurs résultats. Ensuite, partenaire FNE, CPIE, avec Gaël Mathura, Kevin Morer et Gaëtan Deltour, on préparait des quatre situations, donc deux sur les oiseaux et deux sur les sauvages de Maru. Donc une situation à chaque fois où on a un milieu qui est riche en biodiversité et un milieu qui est plutôt pauvre. Et donc les élèves travaillent sur ces milieux fictifs, mais qui en réalité ne sont pas vraiment fictifs, puisque comme c'est des biologistes de terrain, mais ils connaissent le terrain, ils ont fait vraiment des choses vraiment réalistes. Et donc les élèves ont pu analyser ces situations et essayer de trouver des causes, pourquoi dans certains cas j'ai un milieu pauvre, un milieu riche, ou en oiseaux ou en végétaux, voilà. Et donc voilà, ils essayent déjà de trouver les causes, pourquoi, comprendre pourquoi on en est là de l'état de la biodiversité. Ensuite, donc, ils assistent à la conférence de Frédéric Santoul. Et ensuite, l'après-midi va être consacré donc à une simulation de COP, où là, ils vont incarner plusieurs personnages, parce que la problématique va être comment réintroduire de la biodiversité dans mon établissement. Et donc voilà, là ils vont incarner 8 personnages, donc le scientifique, le prof, l'élève, le chef d'établissement, le chef d'entreprise du BTP, voilà. Et donc ils vont préparer donc leur point de vue depuis ce personnage, en fait, avec des arguments, qu'est-ce que son personnage pense de la biodiversité au sein de son établissement. Et l'idée ensuite, c'est de faire cette simulation de COP, c'est-à-dire une commission où ils vont discuter entre eux pour essayer de trouver des actions concrètes à mettre en place dans leur établissement, sachant qu'il faudra faire consensus entre les besoins d'un chef d'établissement, les besoins des élèves, les besoins d'un scientifique, les apports d'un chef d'entreprise du BTP ou d'un gestionnaire. Voilà, ils vont devoir trouver des consensus. Et on espère qu'à la fin de cette commission, ils auront pu dégager 4 engagements, c'est-à-dire 4 projets concrets à mettre en place dans les établissements. Et donc ces 4 projets vont faire partie d'un manifeste pour la biodiversité au sein des établissements. Et ce manifeste sera signé donc par les élèves ayant participé à la COP, ainsi que par le chef d'établissement. Voilà, et donc ils s'engageront. Ah, ben on verra les engagements qu'ils vont trouver. Je peux pas les connaître à l'avance. Mais voilà, on espère qu'il y aura des actions concrètes l'année prochaine dans les établissements grâce à ce manifeste.
Donc, bonjour, moi c'est Angèle Tardivasseur. Je suis élève de 3e au collège Pierre d'Arras à Caussade. Donc avec la COP des jeunes, moi mon rôle c'était gestionnaire. C'est un rôle qui consiste à écouter les remarques de nos camarades et éventuellement d'en proposer, mais tout en faisant attention cependant aux dépenses que ces propositions peuvent coûter. Nous, les gestionnaires, sommes très attachés à l'environnement, c'est une cause qui nous tient à cœur. Cependant, il est de notre devoir de faire attention aux dépenses que l'on fait dans le bon fonctionnement de l'établissement. C'est pourquoi il fallait que l'on modère les propositions. C'est un rôle qui m'a bien plu. J'ai adoré prendre part à la COP des jeunes, vraiment. Faisant moi-même des jeux de rôle, j'étais très investie dans ce travail, ça m'a plu. Et faites tous des jeux de rôle, c'est incroyable.
Enfin, le dernier mot au directeur académique des services de l'éducation nationale, le DAZEN, Cyril Lenormand, pour clôturer la journée.
Ce qui est important à retenir, c'est qu'on est sur un jour particulier. On vient de vivre une semaine presque extraordinaire, mais dans le mauvais sens du terme. J'ai communiqué avec une chef d'établissement aujourd'hui, ils ont fait des relevés de température au dernier étage dans ce collège et la plupart des salles étaient au-dessus de 31 degrés sur l'ensemble de la journée. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe pour lequel il faut agir et on a espoir en vous, on croit en vous parce que c'est vous qui ferez bouger les choses comme je vous l'ai dit ce matin et merci pour votre implication et pour toute cette journée et j'espère que vous allez retourner dans vos établissements avec le papier qui va vous être donné de manière à faire, donc celui-là, de manière à faire que chaque chef d'établissement, directeur d'école, le prenne aussi en charge. Et ce sera votre boulot à vous, en tant qu'éco-délégué ou membre du CVL, de dire on veut que ça change aussi dans nos établissements scolaires.
C'est la fin de cette chronique. Merci à vous de l'avoir suivi. Je remercie encore une fois notre invité du jour, Étienne Britis-Bedbédé, chargé de projet gestion des haies et filière valorisation de l'association Campagne Vivante 82. J'en profite également pour remercier toutes les personnes ayant participé au forum éducation au développement durable et à la COP biodiversité du 29 mai et ayant été interviewées, et tout particulièrement Laurence Delprat et Fabrice Guittard, animateurs du réseau EDD dans le Tarn-et-Garonne, pour avoir organisé cet événement d'ampleur. Je vous dis à bientôt pour une autre chronique du Hérisson, émission proposée par France Nature Environnement Tarn-et-Garonne sur CFM Radio. À bientôt !